Chapitre 3. Les mots artificieux. Il nous reste à envisager un ultime procédé. Une élégante perfidie, moins anodine qu'il n'y paraît, l'utilisation de concepts mobilisateurs. À la différence des sophismes qui pervertissent la logique en des raisonnements spécieux, ceux-ci s'infiltrent jusqu'au cœur du langage pour en corrompre ce qu'il a de plus précieux, ses mots. 1. Les concepts mobilisateurs. Ensemble, nous construirons une société plus juste. À première vue, aucun problème avec cette phrase. Elle semble n'être qu'un avatar ordinaire de ce langage insipide auquel la politique a fini par nous habituer. Tout au plus pourrait-on lui reprocher d'être lénifiante et un peu vague, mais trompeuse, allons. Et pourtant, si, elle l'est. Par concept mobilisateur, nous désignons des mots ayant deux caractéristiques. La première, leur contenu dénotatif est soit inexistant, soit foisonnant. Ou bien ils ne veulent rien dire, ou bien ils peuvent vouloir dire tout et son contraire. La seconde, ils sont connotés positivement. Le simple fait de les prononcer évoque, à l'esprit des auditeurs, des représentations plaisantes. Autrement dit, ils parlent à tout le monde, tout en ayant une signification différente pour chacun. Ainsi définis, ces concepts mobilisateurs se déclinent en une liste interminable. On les trouve bien évidemment dans la sphère politique. Liberté, sécurité, émancipation, bienveillance, réforme, transformation, changement, rassemblement, en avant, en mouvement, pragmatisme, réalisme, progressisme. Mais le vocabulaire du management en est, lui aussi, abondamment pourvu. Disruption, performance, gouvernance, qualité, agilité, horizontalité, transversalité, épanouissement, talent, accompagner, donner du sens. Des séquences entières de discours peuvent être façonnées en utilisant exclusivement ce type de mots. Nous avons eu l'occasion d'en donner précédemment un exemple à travers la séquence inspirée d'un discours de François Hollande. Du point de vue des oratrices ou des orateurs, ces concepts permettent de produire du discours en grande quantité, tout en étant assurés de ne jamais se mettre en danger. Les auditeurs croiront avoir entendu un contenu agréable, sympathique, peut-être un tantinet cryptique, mais assurément dans l'air du temps. Au pire, ils auront le sentiment de ne pas avoir tout à fait compris. Au mieux, ils auront compris exactement ce qu'ils désiraient comprendre, projetteront la signification qui leur convient, sentiront le propos résonner en eux intimement. Alors même que, dans l'esprit de son auteur, celui-ci pouvait avoir un sens très différent, voire n'avoir aucun sens du tout. Telle est la force miraculeuse des concepts mobilisateurs, ils permettent de se prémunir du conflit en restant tapis derrière le voile protecteur de l'indéfinition. Prenons le concept central de notre premier exemple, la justice. En apparence, le mot est aussi noble que précis. Tout le monde voit bien ce qu'est une société juste, n'est-ce pas? Certes. À un détail près, personne ne voit la même chose. Pour les uns, ce sera une société où l'on donne davantage à ceux qui en ont le plus besoin. Pour d'autres, ce sera une société où l'on donne davantage à ceux qui font le plus d'efforts. Pour d'autres encore, ce sera une société où l'on donne davantage à ceux qui possèdent la nationalité. Tous se retrouvent derrière l'idéal de justice, mais aucun ne possède la même conception d'une société juste. Nous sommes bien face à un concept mobilisateur, Il permet de rassembler derrière une même bannière des individus divisés. Pour l'oratrice ou l'orateur, sur le plan stratégique, cela constitue une aubaine inespérée. D'un point de vue éthique, le procédé n'en reste pas moins discutable. Quand bien même il serait repéré, il nous laisserait seulement à penser que l'argumentation manque de précision. Alors que la réalité est bien pire, elle n'a rigoureusement aucune signification. C'est dans cette ambiguïté que se niche la mystification. Est-ce à dire qu'il faille jeter l'opprobre sur tout individu que l'on surprendrait à manipuler de tels mots? Au contraire, les concepts ne sont jamais mobilisateurs par nature. C'est en étant répétés jusqu'à la nausée dans des discours flasques et négligés qu'ils finissent par perdre toute substance. Dès que nous faisons l'effort de préciser le sens que nous leur conférons, nous revenons dans le champ de la pensée. Pour filer l'exemple précédent, il existe bien sûr des philosophies de la justice. Elles s'attachent à la définir et la caractériser. Mais c'est précisément ici que se situe la différence, les concepts y sont travaillés. Ce n'est qu'à force d'être brandis mécaniquement qu'ils se figent, se fossilisent et basculent dans la vacuité. Ce ne sont plus des idées, tout juste des outils, voués à susciter du flou dans l'espoir de récolter un consensus mou. Cette dernière précision devrait nous inciter à la prudence toutefois. Puisque c'est le contexte qui confère au concept son caractère mobilisateur, nous ne pouvons jamais exclure qu'un discours vague soit, en réalité, limpide pour l'individu qui le prononce. Dans son esprit, les mots sont définis et les arguments précis. Peut-être même que les membres du groupe auquel il appartient, qu'il s'agisse d'un mouvement politique, d'une entreprise ou d'une administration, sont capables d'en décoder le sens. De deux choses l'une dans ce cas. Soit le propos s'adresse exclusivement à ses initiés, et nous ne sommes plus face à des concepts mobilisateurs, seulement du jargon. On peut lui reprocher de manquer d'élégance, mais pas d'honnêteté. Soit, au contraire, l'auditoire est plus vaste que cela, et ceux qui le constituent risquent d'être égarés dans des interprétations erronées. Nous sommes bien en présence d'un procédé trompeur, il a simplement été mobilisé sans volonté de tromper. Un tel discours ne mérite pas nécessairement d'être dénoncé comme malfaisant. En revanche, il ne devrait jamais être jugé convaincant. En tant qu'auditrices ou auditeurs, nous devons donc apprendre à repérer ce type d'argumentation afin de pouvoir, en notre fort intérieur, lui attribuer la valeur qu'elle mérite. Aucune. Pour cela, il existe, heureusement, une méthode simple. Il suffit de se demander s'il serait possible de revendiquer l'inverse de ce qui vient d'être dit. Les concepts mobilisateurs ayant pour spécificité de mettre tout le monde d'accord, ils ne sauraient être renversés sans que l'on passe pour un fou ou un idiot. Construisons une société plus juste. Au contraire de ceux qui veulent une société injuste. Ici, nous fonctionnons dans la bienveillance. Par opposition à ceux qui admettent leur malveillance, nous continuerons la transformation entamée il y a 4 ans, car il existe beaucoup de dirigeants qui revendiquent l'immobilisme. Dans notre société, nous sommes très investis dans l'épanouissement de nos talents. À l'inverse des concurrents, qui recrutent des cancres puis les laissent se morfondre, et la liste continue. Bien sûr, il ne faudrait pas verser pour autant dans une forme d'obsession paranoïaque. Qu'un ou deux concepts mobilisateurs fleurissent au sein d'une intervention, par inadvertance ou astuce, facilité ou habileté, cela peut arriver. C'est lorsque le discours s'en trouve parsemé que nous pouvons commencer à nous méfier. Les orateurs et les oratrices qui revendiquent notre attention ne méritent pas nécessairement notre intransigeance, mais doivent être accueillis avec exigence. Notre adhésion est un bien précieux. N'acceptons jamais qu'elle soit achetée avec de la fausse monnaie. En tant qu'oratrice ou orateur, en revanche, la question reste entière. Devrions-nous utiliser ces outils ? Parfois, oui, cela peut se justifier. Les concepts mobilisateurs ont ceci de particulier qu'ils nous permettent, littéralement, de parler sans rien dire. En ce sens, ils apparaissent comme un moyen de nous protéger lorsque nous nous trouvons, par exemple, sommés de répondre à une question nous mettant gravement en danger. Se murer dans le silence ne sera, hélas, pas toujours possible. Bricoler un chapelet de mots brumeux constituera alors notre meilleur refuge. Emporteront-ils la conviction ? Probablement pas, mais au moins, nous serons parvenus à ne pas nous incriminer sans prêter le flanc à l'accusation d'avoir esquivé la question. L'attaque aura été repoussée, c'est tout ce qui compte. En revanche, le recours à un tel procédé ne devrait rester qu'exceptionnel. Pour des raisons tactiques en premier lieu. Rappelons que la spécificité des concepts mobilisateurs est d'être flou et figé. Deux caractéristiques qui sont rarement regardées comme des qualités. Si nous y avons recours trop fréquemment, ils auront au fait de dévitaliser notre langage, le rendre laborieux, pesant, désagréable. Sauf à manier le procédé avec une grande virtuosité, nous ne susciterons aucun enthousiasme, rarement même de l'adhésion, tout juste l'absence du désaccord. Ce n'est généralement pas ce que nous recherchons. Pour des raisons éthiques, en second lieu, la démultiplication des concepts mobilisateurs n'a rien, en effet, d'un phénomène anodin pour le débat public. 2. L'altération du débat public. Depuis le début de ce développement, nous tournons autour d'un mot. Jamais il n'a été évoqué, mais on pressent bien qu'il rôde non loin. Et, en effet, les concepts mobilisateurs sont bien l'un des outils principaux de ce qu'on nomme la langue de bois. Tous les travaux qui lui sont consacrés notent, d'une manière ou d'une autre, la place centrale qui occupe les concepts flous et figés. Certains parlent de mots masques, d'autres de concepts tout-terrain ou de mots creux. À chaque fois, c'est bien du même procédé qu'il est question, celui qui permet de cacher en feignant de montrer, selon la belle formule d'Éric Hazan. Encore faudrait-il, dès lors que l'on commence à parler de langue de bois, être capable de la définir rigoureusement. Et c'est ici que les difficultés commencent. Il s'avère très délicat de dégager une définition stable de cette expression qui semble pouvoir désigner des discours incroyablement différents. Il n'est même pas certain qu'elle soit encore la plus pertinente aujourd'hui pour qualifier ce qu'elle entend dénoncer. Aussi stimulante que soit cette question, nous nous résignons donc à la laisser de côté. Elle nous emmènerait bien au-delà des frontières de notre réflexion. Nul besoin de la langue de bois, cela étant, pour nous interroger sur ce que les concepts mobilisateurs produisent dans le débat public. Loin de n'être qu'une petite manigance sans importance, il semble en effet susceptible d'entraîner des conséquences gravement délétères. L'écrivain George Orwell lui-même, il y a plus d'un demi-siècle, proposait sur cette question une réflexion visionnaire. On cite souvent l'auteur pour son roman 1984, dans lequel il imagine un futur totalitaire. L'administration y promeut l'usage de la novlangue, un langage volontairement appauvri, privé de toute nuance, épuré d'une grande partie de ses concepts et qui doit, à terme, empêcher la formulation de toute pensée dissidente. Bien sûr, aujourd'hui, 1984 est devenu un poncif. On ne cesse de l'invoquer, souvent avec excès, parfois sans l'avoir lu, afin de dénoncer l'avilissement supposé de la parole politique dans les sociétés démocratiques. Et l'on oublie que, avant même l'écriture de son chef-d'œuvre, Orwell avait publié un essai précisément centré sur ce sujet, la politique et la langue anglaise. Dans ce texte majeur, il interroge les dérives des discours de son époque et note combien les « meaningless words », les mots dénués de sens, contribuent à obscurcir le débat et appauvrir les idées. L'extrait vaut la peine d'être cité en intégralité. Dans certains types d'écrits, il est fréquent de tomber sur de longs passages presque totalement dénués de sens. C'est notamment le cas en politique. Le mot « fascisme » n'a plus de sens, sauf dans la mesure où il signifie « quelque chose de non désirable ». Les mots « démocratie », « socialisme », « liberté », « patriotique », « réaliste », « justice » ont chacun plusieurs sens différents qui ne peuvent être conciliés les uns avec les autres. Les mots de ce genre sont souvent employés de manière délibérément malhonnête. L'individu qui les utilise en a sa propre définition, mais laisse ses auditeurs penser qu'il pourrait vouloir dire quelque chose de tout à fait différent. Orwell, déjà, avait identifié le risque de voir les concepts mobilisateurs s'infiltrer dans la pensée jusqu'à la dénaturer. La perversion de ces mots, c'est qu'ils sont inattaquables. Il est impossible de les contester. Dans la mesure où leur contenu est indéfini, nous ne saurions par où commencer notre travail de réfutation. Il n'est pas davantage envisageable de les dénoncer. Comme leurs connotations sont positives, s'élever contre, ce serait s'auto-disqualifier. S'opposer frontalement au sérieux budgétaire, à la démarche qualité au travail ou à l'agilité dans la poursuite des carrières, voire pire, contredire un interlocuteur qui se revendique de la République, de la liberté ou de la laïcité, ce serait un suicide rhétorique. C'est en cela que les concepts mobilisateurs constituent un procédé profondément déloyal. Ils ne se contentent pas de mettre tout le monde d'accord, ils musellent l'expression du désaccord. Ils restreignent la capacité à penser et proposer une alternative. François Bernard Huyghe l'exprime en des termes très vifs pour qualifier ce qu'il appelle la langue de coton. C'est surtout la langue sans réplique. Elle émet des propositions qui laissent une telle place à l'interprétation que chacun est libre de comprendre ce qu'il espère. Ou elle dit des vérités si vastes que le sujet traité n'a aucune chance d'y échapper. Ou encore, elle formule des jugements moraux que seul le plus infâme des salopards ne pourrait tenir pour vrai. On ne peut jamais la contredire. Si nous désirons riposter à un propos saturé de concepts mobilisateurs, il va donc falloir les dévoiler, puis les expliciter, avant de pouvoir enfin contre-argumenter. Ce n'est pas irréalisable, mais cela demande une belle dose de panache et de vivacité. Et surtout, le danger, c'est que toutes les oratrices et tous les orateurs finissent, pour combattre à armes égales, par se vautrer collectivement dans le procédé. Le débat public risque alors de s'étioler, jusqu'à en perdre toute vitalité. On ne verra plus s'y confronter que de grandes idées vagues et générales, dont il devient impossible de savoir quelles seront réellement leurs conséquences pratiques. Les discussions, qu'elles soient politiques, économiques ou managériales, se recouvrent peu à peu d'un voile de brume. Elles ne permettent plus à l'auditoire de se forger un jugement éclairé, d'exercer pleinement son libre arbitre. ne soyons pas dupes. Le prix collectif à payer pour une inflation généralisée des concepts mobilisateurs est terriblement élevé.